Les Écritures nous montrent qu'Abraham, il est le père des croyants. Je ne vous apprends rien. Mais c'est une vérité de la Bible qui comprend beaucoup de choses. Il est le père des croyants. C'est-à-dire qu'il est le père de ceux, non seulement qui croient que Dieu existe, mais de ceux, il faut que ce soit comme ça, qui croient ce que Dieu dit et qui s'efforcent de le mettre en pratique dans leur vie. Ce sont les vrais croyants, comme Abraham a fait. Et c'est pour ça qu'il est le père de ceux qui croient les mêmes choses que lui et qui mettent en pratique les mêmes choses que lui. Abraham a cru Dieu et il a fait ce que Dieu lui a montré de faire. D'ailleurs, vous le savez, il est parti de chez lui pour aller dans un lieu que Dieu allait lui montrer. Et là, ça a impliqué quelque chose, ça. Il a fallu qu'Abraham prenne une décision quand Dieu lui a montré ça, quand Dieu lui a demandé ça. Il a fallu qu'il prenne une décision de faire ce que Dieu demandait ou non. Mais avant ça, dans lui, il a fallu qu'il se passe autre chose. Il a fallu qu'il décide de faire confiance à ce Dieu-là qui lui demandait de partir. Voyez-vous? Ça a commencé par accepter de mettre sa confiance en lui et ensuite de passer à l'action. C'est ce qu'on appelle une foi agissante, une foi qui passe à l'action. Comment ça se fait que vous êtes ici aujourd'hui, à la fête des tabernacles? Comment ça se fait? Je relis ça à ce que je viens de mentionner. C'est parce que vous croyez ce que Dieu dit, ce qu'il demande, et que vous agissez en conséquence. Et je sais que pour un certain nombre d'entre vous, ça a demandé des efforts particuliers, même de franchir des obstacles très difficiles pour venir à la fête. Pourquoi? Parce que vous vouliez obéir à Dieu. Certains ont été empêchés de venir par des conditions de santé très, très difficiles. Ça, c'est autre chose, mais certains sont ici dans des conditions de santé parfois pénibles, mais pas assez pénibles pour les empêcher de venir. Mais ils sont venus même s'il y avait des petits bobos. Et je me rappelle, quelqu'un m'a mentionné au téléphone l'autre jour, « Monsieur Brochu, on sera à la fête, mon épouse et moi, même si on n'est pas en grande santé, même si mon épouse n'est vraiment pas en bonne condition physique. » Parce qu'il dit, « Écoutez, si on reste à la maison, on va avoir aussi mal qu'on a mal maintenant. Alors, on est mieux aller à la fête de Dieu avec nos bobos, mais être devant Dieu et apprendre. » Et j'ai aimé ça quand notre diacre à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, m'a mentionné ça par rapport à son épouse qui est en fauteuil roulant ici et qui tenait à venir à la fête absolument parce que c'est la fête de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est ça. Et cette attitude-là plaît à Dieu parce que c'est une foi agissante. Certains sont ici à la fête depuis... Ils ne sont pas ici depuis autant de temps, mais célèbrent la fête depuis une quarantaine d'années et même plus. D'autres, 20 ans, 10 ans. Pour certaines personnes, c'est la première fois. Et là, ils découvrent. Et je trouve ça tellement beau de voir des gens qui découvrent la fête, de voir apparaître les sourires, de voir ce que Dieu leur donne de comprendre. Parce qu'on dirait que notre première fête, je me rappelle, on découvre des choses qu'on n'a jamais soupçonnées et ça nous encourage tellement. Et alors, certains vivent ça ici, parmi nous. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Les enfants d'Abraham sont ici. » Les enfants d'Abraham sont ici. Parce que ce sont les enfants du croyant. Ils ont une foi agissante, comme Abraham. Alors, les enfants d'Abraham sont ici à Shawinigan. Ils sont dans les sites de fête, dans les Antilles, en Europe, en Afrique, un peu partout sur la planète, dans tous les sites de fête de l'Église. Vous êtes les enfants d'Abraham, le croyant. Pourquoi? Parce que vous avez quitté votre lieu d'habitation habituel, un peu comme Abraham a fait. Vous avez quitté votre lieu d'habitation habituel pour venir au lieu où Dieu a choisi de mettre son nom, pour vous bénir, pour vous encourager, pour nous donner d'avoir la vision de ce qui s'en vient, comme on a vu assez clairement et de façon tellement enthousiasmante dans la sermonnette tantôt. Et vous savez, c'est symbolique de la démarche d'Abraham, ça. C'est symbolique de sa démarche. Vous êtes semblable à lui par une foi agissante, parce que vous êtes passé à l'action. Et vous célébrez cette fête-là qui représente la délivrance du monde, entier, et l'établissement enfin du royaume de Dieu qui va apporter graduellement sur la terre la paix, l'abondance, la sérénité, l'harmonie. Allez dans Deutéronome. Deutéronome, s'il vous plaît. Chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12. On va lire le verset 17 et 18. Et ici, vous allez voir ce que Dieu donne comme directive, ça concerne la fête des tabernacles. Il dit, « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile. » Ça, c'est notre deuxième dîme, celle qu'on met de côté au long de l'année pour avoir ce qu'il faut pour venir à la fête des tabernacles. Il dit, « Tu ne pourras pas manger ça chez toi. Je vais te montrer un endroit où tu vas aller. » Et là, tu vas manger ces choses-là que tu as mis de côté, c'est-à-dire avec l'argent que tu as mis de côté pour célébrer la fête. Ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. » Je reviens là-dessus. On est content de mettre de côté, durant l'année, de l'argent. Même ceux qui n'ont pas un travail régulier ou tout ça, mettent de côté tout ce qu'ils peuvent pour se préparer à aller à la fête. Et il y a une joie à ça. Et quand on vient à la fête, vous savez, quelque chose, on goûte à ces bénédictions-là, comme Dieu mentionne ici. Goûtez ça devant moi, là, au lieu où j'ai placé mon nom. Mais ça aussi, c'est une œuvre de foi. On ne le voit pas comme ça souvent, mais c'est une bonne œuvre de se réjouir raisonnablement devant lui, parce que c'est un commandement et c'est une action de foi aussi. C'est moins difficile à faire que d'autres actions de foi, remarquez bien, je vais être honnête avec vous. D'autres fois, dans d'autres circonstances, il y a des choses qu'on doit faire qui sont plus exigeantes que de se réjouir, que de manger un bon mets ou de profiter de bonnes choses de la vie. Mais c'est une œuvre de foi que Dieu bénit. Et on le voit à la fête, on y goûte. Et tout ça, ça nous fortifie pour les mois qui s'en viennent, d'ici la Pâque. Parce que les fêtes que nous célébrons maintenant sont les dernières du cycle annuel. Et on aura quelques mois, les mois d'hiver, comme on a parlé dans la prière d'ouverture. Et Dieu va nous donner la force spéciale maintenant dont on aura besoin si notre cœur est avec lui pour traverser ces mois-là. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, s'il vous plaît. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont produites ici à la fête et je suis convaincu que c'est la même chose dans d'autres sites où les bénédictions sont devenues très apparentes de toutes sortes de façons. Dieu donne plein d'encouragement, de protection, de guérison, de soutien. Jacques 2, versets 21 à 23. On parle ici d'Abraham, le père des croyants. « Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » La foi sans les œuvres est inutile. Si je crois que Dieu existe, mais que je ne mets pas en pratique ce qu'il me dit de faire, ma foi, elle est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et regardez le résultat de ça par rapport à la relation d'Abraham avec Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. C'est pas peu de choses, là. Ami du gouverneur de l'univers. C'est la conclusion, c'est le résultat de ça. Alors, voyez-vous, en célébrant cette fête, vous démontrez que vous croyez ce que Dieu dit, vous lui démontrez que vous voulez continuer à faire sa volonté, même si vous n'êtes pas encore parfait, ni moi non plus, ni personne dans l'Église, mais qu'on est en train de faire des efforts avec son aide pour vraiment changer et se préparer. Et ce qui est fascinant, en même temps, c'est qu'à la fête des tabernacles, comme ça se produit au sabbat aussi, les gens, parfois, ont des questions bibliques et ils arrivent à la fête et tout à coup, il y a plein de réponses dans les messages. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant et qu'il y a des bénédictions spéciales à l'intérieur de ces fêtes pour ceux qui cherchent à faire sa volonté et qui ont besoin des encouragements pour continuer. Tout en gardant à l'esprit, et on doit le garder à l'esprit même à la fête aussi, l'avertissement que Dieu nous donne dans Apocalypse 18, verset 4, quand il nous dit « Sortez du milieu d'elle, sortez du Babylone, de Babylone, sortez de cette société, sortez de ses façons de faire. » Bien sûr, on vit encore dans cette société, mais Dieu dit « Cessez de pratiquer ce que vous pratiquiez avant et ne vous associez pas aux choses contraires à ma loi. » Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et il dit exactement pourquoi. Afin que vous ne participiez point à ses péchés, donc cessez de faire ce qu'on faisait avant, qui était contraire à sa loi, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Parce qu'on sait que les fléaux s'en viennent, que la grande détresse s'en vient, que le jour du Seigneur s'en vient, et tout ça. Mais il dit, je vais protéger comme des perles ceux qui sont les croyants comme Abraham était le croyant. Les enfants d'Abraham, dans ce sens-là, je vais les protéger à un lieu de sécurité en leur donnant la formation finale. Voyez-vous, si vous persévérez à vivre selon les lois de Dieu, ça veut dire continuer à changer et à se repentir. Ça, c'est un travail de chaque jour. À éliminer dans ma vie tout ce qui est contraire aux lois de Dieu, comme Abraham a dû faire, à ce moment-là, ça vous est imputé à justice, comme ça a été le cas pour Abraham. Ça veut dire quoi que ça vous est imputé à justice quand vous essayez de mettre les lois de Dieu en pratique? Ça veut dire que vous êtes considéré comme un juste, comme quelqu'un qui vit selon la justice de Dieu. Ça vous est attribué comme quelqu'un qui marche dans la justice de Dieu. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que aux yeux de Dieu puis dans son cœur, vous êtes considéré comme son ami. C'est très proche, en plus que d'être son enfant en préparation pour la nouvelle naissance. On est encore dans ce monde-là qui n'est pas le monde de Dieu. Oh, on le sait que ce n'est pas le monde de Dieu, absolument pas. Et plus ça va, moins c'est le monde de Dieu. Et plus ça devient horrible et terrible ce qu'on voit autour. Et ça nous donne encore le désir, encore plus fort, que le signal soit donné pour le retour du Christ et le rétablissement de toutes choses dont on a parlé. Parce que nous sommes actuellement dans une terre étrangère. Nous sommes dans une terre étrangère. Quand Abraham est allé dans un lieu que Dieu lui montrait, c'était encore une terre étrangère. Abraham devait agir comme Dieu lui montrait, mais ce n'était pas encore le royaume. Il n'avait pas hérité, il n'a pas hérité les choses qui lui ont été promises. Bientôt, on sait que cette société-là va être totalement transformée et changée par une société heureuse. Ce sera le rétablissement de toutes choses. Ce sera alors le monde de Dieu, dirigé par la famille royale, sous le Christ. Je vais plus loin. Durant les jours de la fête qu'on célèbre, où est-ce qu'on habite? On n'habite pas chez nous. Nous habitons dans ce qui est pour nous des demeures temporaires, passagères. Après la fête, on va quitter ces demeures-là qui ont été temporaires pour un temps, des demeures passagères. Et ça nous apprend une grande leçon. C'est comme notre vie physique, qui est passagère, qui est temporaire. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte que c'est pas long, une vie. C'est très court. Quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans, on a l'impression que ça va être long. C'est surtout long avant d'avoir 20 ans ou 21 ans, avant de pouvoir conduire une voiture, avant de pouvoir avoir certains privilèges. On a l'impression que ça viendra jamais. Mais plus les années passent, et je vois des gens qui me font signe de tête, merci, l'encouragement, on se comprend, plus les années passent, plus les années sont courtes. Hein? Les années raccourcissent, on a l'impression, comme les journées, comme les semaines, il n'y en a plus de temps. Alors, ça nous montre qu'on est passager. On n'a pas rien de permanent ici, maintenant. On n'a rien de permanent. Nous attendons, par contre, ce qui est permanent, comme Abraham attendait ce qui est permanent. C'est ça. Et ce qui est permanent, c'est quoi? Ça va commencer par le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. C'est le début de cette permanence-là du royaume éternel établi sur la terre. Après ça, il y aura les 100 années, après la deuxième résurrection. Après ça, il y aura la descente sur la terre de la nouvelle Jérusalem et la venue du Père pour la première fois sur la planète Terre. Le quartier général de la famille divine sera à ce moment-là sur la terre. Et l'établissement de ce qui est permanent aura été enclenché de façon remarquable, extraordinaire. C'est ce que nous attendons. Hébreux chapitre 11, versets 9 et 10. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Voyez-vous, même pour lui, c'était étranger, la terre où Dieu lui avait demandé d'aller. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Des tentes, ce sont des demeures temporaires. Ce sont des demeures temporaires. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10, « Car il attendait, Abraham attendait, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la Jérusalem céleste qui va descendre sur terre à un moment donné. » Abraham savait ces choses-là et il savait l'importance de ça. Il savait que ça faisait partie des choses permanentes, mais que lui était pour un temps dans une terre étrangère. Il s'est endormi du sommeil de la mort en attendant sa récompense, en attendant la vie éternelle et en attendant les postes que Dieu va lui donner. Hébreux 13 et le verset 14. « Comme Abraham, nous attendons aussi cette cité permanente, cette cité éternelle. » Et regardez comment c'est bien dit ici, de façon résumée. Hébreux 13, verset 14. « Nous n'avons point, nous là, nous qui célébrons la fête des tabernacles, nous qui vivons comme dans une terre étrangère encore, nous qui vivons dans des demeures temporaires, et à la fête, et physiquement dans nos corps physiques, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et avec la fête, avec les messages que Dieu nous donne, avec ce qu'il nous révèle lorsqu'on le prie ou qu'on regarde les beautés autour en pensant à lui, on désire davantage la venue de cette cité-là et le changement du monde qui approche. Et comme certains me disaient, on sent de plus en plus que le monde à venir est proche. Dieu nous donne de le percevoir. Et c'est un encouragement aussi. Et à travers ces fêtes, il nous révèle que ces choses-là progressent. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il l'attire vers le Christ. Et il se révèle à lui. On ne connaissait pas le vrai Dieu avant. Même si on était dans toutes sortes de religions, ou dans pas de religion, pour ainsi dire, on ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais Dieu nous a appelés, il nous a attirés vers le Christ, et là, il s'est révélé à nous. Il s'est fait connaître à nous. Même il nous a révélé, et il continue de nous révéler, le grand mystère, le but de l'existence, pourquoi on existe. Qu'est-ce qui s'en vient au-delà de la vie actuelle? Mais quand Dieu appelle quelqu'un à l'Église comme ça, n'oubliez pas, tous les êtres humains ont été créés libres. Ils peuvent choisir. La personne qui est libre a alors la possibilité de choisir, d'accepter l'appel ou non. C'est marqué dans la Bible, hein? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La vérité est rendue disponible dans le monde et Dieu appelle un grand nombre de personnes. Dans ce grand nombre de personnes qui sont appelées, ce grand nombre-là voit la vérité. Mais seulement un petit groupe décide de mettre leur foi en Dieu et de passer à l'action pour faire ce que Dieu dit, pour observer son sabbat, ses fêtes, les autres lois, pour travailler à changer. C'est ce qui se passe. Alors, ce petit groupe-là, qui deviennent les élus, parce que dans tous ceux que Dieu appelle, quelques-uns choisissent d'obéir à Dieu, et c'est ceux-là que le Christ choisit. On les appelle les élus, les choisis. Alors, parmi le grand nombre d'appelés, il y a juste quelques-uns qui sont des élus. Et les élus doivent continuer à servir Dieu jusqu'au retour du Christ, à être fidèles, à marcher dans la foi. Voyez-vous? C'est la façon dont les choses se passent. Mais la première décision qu'on prend lorsque Dieu nous montre la vérité et qu'il nous attire au Christ, c'est d'abord de lui faire confiance et de commencer à mettre ses lois en pratique. Mais le premier pas que l'on fait en réaction à l'invitation de Dieu, ça, c'est notre foi humaine. C'est notre choix humain. C'est notre liberté humaine. Mais on sait que la foi humaine ne va pas tellement loin. On a un exemple dans la Bible où un monsieur dit au Christ, « Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Je pense qu'il parlait de sa foi humaine qui veut bien croire plus, mais qui a besoin ensuite, pour aller plus loin, de l'aide de Dieu. Et c'est notre cas à tous. Et c'est pour ça qu'il faut demander la foi régulièrement. Je vais revenir là-dessus. Mais lorsque Dieu nous appelle, qu'il nous attire au Christ, et qu'on se met en marche pour lui obéir, on prend cette décision-là à partir de notre foi personnelle, de notre choix personnel, c'est le tout premier pas que fait celui que Dieu appelle. C'est un choix humain, libre, basé sur la foi humaine volontaire. Mais si ça restait là, ça n'irait pas loin. Si ce n'était pas ensuite supporté par la puissance de Dieu, ça n'irait pas loin. Mais c'est formidable. Dans son plan, Dieu a tout prévu. Quand on a commencé, ou quand une personne qui est appelée commence à mettre en pratique les lois de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu lui donne un peu de son Saint-Esprit à ce moment-là, pour que la personne puisse comprendre les choses spirituelles graduellement, et pour que la personne devienne capable de vaincre ses faiblesses, de commencer à lutter contre ses pulsions charnelles, contre ses défauts, contre les transgressions de lois qu'elle faisait auparavant. Dieu donne son Saint-Esprit pour que la personne commence à être capable de le faire. Ça vient de lui, voyez-vous? Là, c'est plus la foi humaine. Ça vient de Dieu. Et là, on peut comprendre davantage les choses spirituelles. Et ce qui est fantastique, et je le vois ici à la fête, chez certaines personnes qui sont nouvelles, c'est que quand Dieu nous donne de comprendre les choses spirituelles, ça nous donne encore plus soif d'en comprendre d'autres. Alors là, c'est le phénomène de croissance dans la foi, dans l'obéissance qui est enclenché. Et tout ça, c'est la puissance de Dieu qui nous donne de pouvoir faire ça. Nous, il faut continuer à maintenir notre décision de travailler à lui obéir. Et plus on le fait, plus Dieu ajoute de son Saint-Esprit. D'ailleurs, vous irez voir dans Actes 5, verset 32, c'est bien mentionné que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu ne dit pas à ceux qui sont parfaits, mais à ceux qui veulent lui obéir et qui font des efforts pour y arriver. Et quand il nous donne son Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qu'il nous donne? Un des fruits de l'Esprit, c'est quoi? La foi. La fidélité, c'est la foi. La fidélité, c'est la foi. Cette foi-là vient de Dieu. Quand on commence à lui obéir, il nous donne son Saint-Esprit avec les fruits qui viennent avec. Et si on le met en pratique, notre foi augmente parce que c'est la foi de Dieu qui nous est donnée. Notre petite foi du point de départ, elle ne nous sert plus. C'est la foi de Dieu qui nous aide à avancer. Et cette foi-là, elle peut s'agrandir. Plus on va s'appliquer à obéir à Dieu, même si on manque notre coup parfois, on lui demande pardon, il nous aide encore, il va augmenter cette foi-là. Parce que la foi, c'est un des fruits de l'Esprit. C'est pour ça qu'il faut demander. Moi, je demande pratiquement chaque jour à Dieu, « Donne-moi la foi. » Et parfois, je m'adresse au Christ lui-même. Je dis, « Donne-moi ta foi. Donne-moi ton courage pour que je pense comme toi, pour que je vois les choses comme toi. » Et puis, on s'applique à éliminer nos fautes, puis à faire la volonté de Dieu, puis à soutenir l'œuvre de Dieu. Bien, la roue tourne encore plus. C'est que Dieu ajoute de son Saint-Esprit. Pourquoi? Pour nous rendre capables de vaincre graduellement nos faiblesses. Pour nous rendre capables de persévérer dans toutes sortes de circonstances. Et il y a des gens ici qui vivent des circonstances dans leur vie, des circonstances extrêmement pénibles, difficiles, mais qui continuent d'avancer. Pourquoi? Ce n'est pas par votre foi à vous, c'est par la foi du Christ en vous. Parce que vous avez à ce moment-là sa perspective. Et c'est intéressant de le voir, de le savoir, parce que c'est un encouragement. Ça veut dire que Dieu est avec vous, il se manifeste de cette façon-là parce que vous faites des efforts, même si vous n'êtes pas parfait. Dieu ajoute de sa foi et vous voulez continuer et vous lui demandez encore, 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 jusqu'à temps qu'on arrive à la victoire. Ce n'est pas le nombre de batailles qui compte, c'est la dernière. C'est la bataille totale. On peut perdre des combats, mais il ne faut pas perdre la guerre. Et Dieu, pour lui, va nous amener à terme si nous, on fait ce qu'il faut entre-temps. Quelles que soient les circonstances, cette force venant de Dieu nous rend capables de traverser avec succès toutes les difficultés et toutes les épreuves. Je ne vous apprends rien. Paul l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Je peux tout ». Il n'a pas dit « Je peux tout parce que je m'appelle Paul ». Je connais les Écritures, j'étais pharisien, j'ai... Non, non, non. Il disait, ce que j'étais avant, je le considère comme de la boue. Mais Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me donne la foi, qui me donne le courage, qui me donne la force. Il y a certains membres de l'Église qui n'ont pas pu venir à la fête parce qu'ils étaient trop malades ou dans des conditions impossibles ou trop âgés. Mais vous savez une chose, ils célèbrent la fête pareil. Et moi, j'en connais qui célèbrent la fête avec beaucoup d'enthousiasme. Et plus que ça, qui célèbrent la fête en priant pour vous et pour moi qui célébrons ici dans ces lieux formidables avec toutes ces bénédictions, alors qu'eux sont peut-être dans leur petit logement, je pense à quelqu'un en particulier, un petit logement tout simple, avec très peu, mais qui prie pour que vous ayez une bonne fête, que j'ai une bonne fête, qu'on apprenne les choses de Dieu et qu'on revienne fortifié. Ces personnes-là vont l'être aussi fortifiées. Et Dieu va avoir des bénédictions spéciales pour ça. Il prie pour vous et pour moi. Ça me fait penser, une fois, on était allé à une fête en Haïti, mon épouse et moi. Ça m'avait tellement touché parce qu'on était à Port-au-Prince et on prenait des autobus. Je ne me rappelle pas du nom qu'il donnait à ça. Je pense que c'était... Non, je ne dirais pas rien parce que je ne suis pas sûr. Mais on prenait des autobus, puis là, c'était bondé, puis les bagages sur le toit, puis tout ça. Puis il y avait des membres de l'Église qui ne pouvaient pas venir avec nous sur le site de la fête. Ça m'avait tellement touché que je n'ai jamais oublié ça. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Les gens très pauvres, là, les gens d'Haïti, ils avaient préparé des petits sacs de bonbons avec quelques bonbons dedans. Puis là, ils approchaient de nous, puis ils nous donnaient un petit sac de bonbons. Eux, qui ne pouvaient pas venir à la fête, ils nous donnaient un petit sac de bonbons en nous disant « Passez une bonne fête des tabernacles, on pense à vous. » C'est pas normal, c'est pas humain. Il y a une perspective qui est différente. Quelqu'un qui n'a rien, qui donne encore et qui encourage ceux qui vont aller célébrer une fête formidable alors qu'eux ne pouvaient pas y aller, mais qui allaient célébrer chez eux intensément la fête des tabernacles. Les enfants d'Abraham, les enfants du croyant, ceux qui ont la foi. Même chose que d'autres personnes sont ici ou dans d'autres sites de fête qui ont perdu un conjoint. Seuls, ils sont seuls à la fête. La déchirure est là, mais ils sont à la fête. Pourquoi? Parce qu'ils ont une perspective tout à fait spéciale. Ils voient les choses comme le Christ les voit. Et ils comptent sur lui pour continuer, pour aller à terme. Et en même temps, ils savent la grande bénédiction qu'ils auront à retrouver leur conjoint au moment de la résurrection. C'est une autre bénédiction que Dieu accorde aux enfants d'Abraham qui ont la foi et qui se sont présentés ici, même dans certaines conditions où le cœur était déchiré à cause de différentes circonstances comme ça. C'est frappant, c'est frappant. Et ça, c'est la joie du Christ malgré les souffrances. C'est la paix du Christ malgré les difficultés. Et les prières qui sont adressées à Dieu pour nous, on les doit et on doit cette capacité-là à d'autres qui prient pour nous dans ces circonstances-là aussi. Allez à Zacharie chapitre 4, s'il vous plaît. Zacharie chapitre 4. Cette force, elle ne vient pas de nous. Mais quand on la voit dans nos frères et nos sœurs, à la fête ici ou dans nos églises locales, ça nous encourage tellement et on voit la main de Dieu à ce moment-là. Cette force-là ne vient pas de nous. Une telle perspective n'est pas humaine. C'est la perception de choses spirituelles. Et c'est tellement encourageant de le réaliser et de demander à Dieu davantage de la foi. Ici, on voit ce que Dieu a dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, pour l'encourager à rebâtir le temple. Et ça s'applique à nous. Zacharie 4 et le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Précisons les choses. Il dit à Zorobabel ici, écoute bien là, je vais t'envoyer faire un travail, mais c'est absolument pas par ta puissance, absolument pas par ta force, absolument pas par tes connaissances ou par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, c'est Dieu qui parle, dit l'Éternel des armées, donc que tu réussiras. Formidable. Vous irez voir dans Genèse, pas Genèse, mais Galates 3, verset 9. Notez-le, je vais vous le citer. Dans Galates 3, verset 9. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui ont la même foi qu'Abraham sont bénis comme Abraham a été béni et le seront comme Abraham sera béni. Fantastique! On est dans quelque chose d'extraordinaire. Et dans la version anglaise de Moffat, c'est plus précis pour les anglophones que dans certaines autres versions, ça dit « Those who rely on faith, la foi du Christ, are blessed, along with believing Abraham. » Paul, écoutez, Paul nous dit la même chose dans le fond. Quand il écrit dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la foi du Fils de Dieu. » Je reviens à ça. Et ce n'est pas pour rien que M. Meredith revient tellement souvent sur ce verset-là, parce que c'est la clé de nos victoires sur nos faiblesses. Et c'est la clé de notre persévérance. C'est la clé par laquelle nous pourrons atteindre la vie éternelle, par la puissance de Dieu. Ce ne sera ni par la force de notre bras, ni par notre intelligence, ni par notre force. Ce sera par la puissance de Dieu. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut demander la foi de Christ. Quand M. Meredith parlait de ça au début, souvent, je me demandais, mais après, j'ai commencé à comprendre. Et plus ça va, plus je vois que c'est capital dans notre cheminement. Vous savez qu'il y a une jeune fille qui est décédée à un de nos camps des jeunes il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Morgan Montgomery, une jeune fille de 19 ans qui venait de l'Australie. Elle a été frappée alors qu'elle faisait du ski nautique par quelqu'un d'autre qui passait avec un bateau à moteur. Elle a été tuée instantanément. Et bon, ça a été tout un drame, c'était tout un choc. Parfois, Dieu permet que certaines choses arrivent pour que plusieurs apprennent des choses. Et peut-être que son chemin était fini aussi. Parce que cette jeune fille-là, qui avait 19 ans, venait d'être baptisée, je pense, 19 jours auparavant. Alors, elle a sa couronne. Elle a sa couronne. Elle a été imprégnée de l'Esprit de Dieu. Elle a reçu l'imposition des mains. Donc, vous savez ce qui est arrivé. Et ce qui est frappant, c'est ce qui est arrivé aussi par la suite. Comment Dieu a utilisé cette situation-là à travers le père de Morgan Montgomery. Il est parti de l'Australie avec son épouse, bien sûr, pour revenir chercher la dépouille de sa fille. Il était déchiré. Il vivait un deuil épouvantable. Mais regardez ce qu'il a fait, non pas par sa force. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est un collègue ministre de l'Église du Dieu vivant en Australie. Il est venu chercher la dépouille de sa fille. Et il a tenu à adresser la parole aux campeurs qui étaient dévastés par ça, bouleversés, et à toute l'équipe des moniteurs du camp. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé et il les a encouragés à avoir la bonne perspective, à voir ce qui doit être vu. Ça, c'est l'homme qui avait le cœur déchiré, là, qui consolait les autres, en disant, faut que nous ayons dans ce drame-là la perspective de Dieu, que nous voyons les choses comme Dieu les voit. Et vous savez, il a même demandé de prier pour le conducteur du bateau qui avait tué sa fille, pour pas que cet homme-là soit dévasté. Il n'a pas été en furie en essayant de trouver des raisons d'accuser l'homme qui avait tué accidentellement sa fille. Il a demandé aux autres de prier, comme lui faisait, pour que cet homme-là soit capable de passer à travers ce qui était pour lui aussi une épreuve épouvantable, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles c'est arrivé. Il a demandé aux gens, il a demandé aux jeunes campeurs, puis à l'équipe, d'examiner ce qui peut sortir de bon d'une situation tragique, à partir d'une situation horrible. Ce n'est pas par une force humaine qu'on peut faire ça. Et dans ce sens-là, M. Montgomery a donné l'exemple de quelqu'un qui voit spirituellement, ce que l'ensemble des humains ne peuvent pas voir maintenant. Ça prend l'Esprit de Dieu pour être capable de voir, à travers des circonstances aussi pénibles, de voir ce qui est la réalité en arrière. Que ce que nous vivons maintenant n'est pas permanent, que c'est seulement passager. Ce qui est permanent nous attend dans le futur. Et c'est extraordinaire. Monsieur Montgomery a donné un exemple de quelqu'un qui voit spirituellement. Ce qu'il a voulu faire à ce moment-là, c'est d'aider les autres. Il a voulu aider les autres à passer à travers, les campeurs et les gens de l'équipe. Il n'a pas regardé les choses physiques. Il a regardé les choses spirituelles. Il était capable de discerner spirituellement. Il a été capable de voir et il a voulu communiquer la vision de Dieu, la perspective de Dieu qu'on peut avoir seulement par son Saint-Esprit. Tellement frappant, tellement touchant. C'est un exemple puissant, ça. Mais ça touche exactement à mon message. C'est un exemple puissant, encourageant de foi du Christ en nous et de ce que ça peut avoir comme résultat, ce que ça peut permettre à des gens de faire. Ça rend des gens capables de faire des choses qu'on ne peut pas faire humainement. Et quand on a la foi du Christ comme ça, dites-vous ceci, quand on a la foi du Christ en nous, qu'on la demande chaque jour, qu'on la chérit, qu'on l'utilise, c'est qu'en même temps, on a aussi le courage du Christ qui a affronté des choses plus qu'horribles. On a aussi son courage, sa façon de voir, sa perspective. Au temps de la fin, c'est de là que vient et que va venir la détermination des serviteurs de Dieu, de ceux qui ont la foi, de continuer, de tenir bon, de ne pas abandonner, malgré les circonstances, malgré les situations, même quand les choses deviennent très difficiles. Et comme je disais tantôt, même si on perd une bataille, il faut se relever, comme M. Appartient nous disait, demander pardon à Dieu, mettez toutes les chances de votre bord pour vous aider et continuez le combat pour vous purifier. La foi d'Abraham, ce n'était pas la foi d'Abraham, c'était la foi du Christ dans Abraham. Et c'est la même chose en ce qui nous concerne. Et c'est pour ça qu'il est écrit à différentes reprises dans la Bible, le juste, celui qui est capable de pratiquer la justice de Dieu graduellement, vivra comment? Par la foi. Il peut arriver à pratiquer la justice de Dieu seulement par la foi du Christ qui est en lui, par l'Esprit de Dieu en lui, pour être capable d'arriver à se maîtriser et à changer. Et le juste vivra par la foi jusque dans l'éternité. C'est ça notre voyage, vers les choses permanentes, alors qu'on est dans les choses très temporaires. Et je reviens à ça, plus on vieillit, plus on se rend compte que tout est temporaire, que notre vie est très temporaire. Dieu fait à chacun de nous la même promesse qu'il a fait à Habacuc. Allez dans Habacuc chapitre 2, s'il vous plaît. Habacuc chapitre 2. On va lire le verset 14. Ça nous montre que ça parle du monde de demain ici. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » On voit qu'il parle du monde de demain, où la connaissance de Dieu sera graduellement répandue sur toute la planète. Mais je reviens ici au verset 2, 2 à 4. Qu'est-ce que Dieu dit à Habacuc? « L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, persévère. Tiens bon, avec mon aide. Car elle s'accomplira certainement. Et là, il donne le cas de quelqu'un qui abandonne, qui se détourne de Dieu ici. Il dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Quelqu'un qui se détourne après avoir connu vraiment. Mais, regardez l'inverse, mais le juste, lui, celui qui continue de faire des efforts, même si c'est difficile, puis qui supplie Dieu de l'aider. Mais le juste, celui qui pratique la justice, il va vivre par la foi. Dans la vie actuelle, il va être capable de passer à travers. Mais le résultat de ça, c'est qu'il va vivre ensuite éternellement. C'est ça, c'est que tout ça se tient. Monsieur Meredith est un excellent exemple pour nous de ça. Moi, je trouve ça extrêmement frappant de le voir faire. C'est un bon exemple. M. Meredith, 85 ans. Il est venu au collège, il avait 19 ans. 85 ans. 64 ans de temps ministre de l'Église. Et lorsqu'on entend ses sermons ou qu'on peut parler avec lui personnellement, on voit qu'il a passé tellement d'épreuves, tellement de tests et des choses épouvantables. Il ne nous a pas tout dit encore, mais il y a des cicatrices dans son cœur à plusieurs égards. Il a même été envoyé en exil à un moment donné pendant un certain nombre d'années. Parce que les humains étant ce qu'ils sont, parfois il y a des gens, même dans l'Église, même dans le ministère, qui se conduisent mal ou qui cherchent des postes ou qui, font des magouilles politiques. Il avait été envoyé par M. Armstrong, qui n'avait pas compris la situation. Il avait été envoyé en exil quelques années. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté fidèle à l'engagement qu'il avait pris à Dieu. Il ne savait pas comment ça allait finir. Mais il dit, Dieu est Dieu, Dieu est fidèle. Moi, je ne dois pas manquer à ma parole. Je vais continuer. Mais il en a souffert. Je sais qu'il faisait des grands parcours en auto, puis avec les larmes aux yeux, en souffrant de ces choses-là, et ça l'a duré, duré, duré. M. Meredith a subi plusieurs tests, plusieurs épreuves, des grandes injustices comme ça. Ça lui fait mal au cœur même de voir des gens auxquels il a enseigné pendant des années ne plus être là. Il les aime encore, il les aimait, il trouve ça triste. C'est des souffrances aussi. Mais il a été fidèle. Il a eu la foi. Mais ce n'est pas la foi de M. Meredith. C'est lui qui dit souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas la foi de M. Meredith. C'est la foi de Dieu. Ce n'était pas la foi d'Abraham. C'était la foi du Christ. Même chose pour vous, même chose pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas essayer d'augmenter ma foi, ça ne me donne rien. Il faut que je demande la foi du Christ. Il faut que je m'en serve, que je lui fasse confiance, puis que je m'applique à faire sa volonté en lui demandant davantage de son Saint-Esprit. M. Meredith a eu des graves problèmes cardiaques. Accidents vasculaires cérébrales qui l'ont diminué physiquement. Vous savez, maintenant, lorsqu'il se déplace, il marche par petits pas saccadés comme ça. Et on voit qu'il est affaibli beaucoup. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Une fois qu'il s'assoit derrière un pupitre, boum! Ça me rappelle M. Armstrong. M. Armstrong, serviteur de Dieu à l'époque, que Dieu a grandement utilisé, il avait de la difficulté à se rendre sur l'estrade. On l'amenait en fauteuil roulant, on le soutenait, et on aurait dit un vieillard impotent. C'était juste la mécanique qui n'allait pas. Une fois qu'il était au pupitre, c'était le tonnerre. Il a accompli l'œuvre de Dieu jusqu'au bout, par la foi de Christ, par la puissance de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Super, formidable. Il a perdu ses deux épouses. La première fois, ça a été un drame terrible aussi. Il avait des enfants élevés. Après ça, il s'est remarié, Dieu l'a béni. Il a tenu bon encore, malgré ça. Il n'a pas remis en question l'amour de Dieu ou son engagement. Il est resté fidèle. Il a continué à servir dans l'Église. Et en temps voulu, Dieu lui a ramené une épouse qui l'a encouragé et qui lui a permis, pendant plus d'une trentaine d'années, d'être sa compagne puis de l'aider dans son ministère. Puis, encore une fois, Dieu a pris la décision que cette deuxième épouse-là devait s'endormir pour les raisons que Dieu connaît. Et M. Meredith s'est retrouvé seul. Est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il a cessé d'être zélé? Pas du tout. Même fougue, même enthousiaste. Est-ce que c'est par le pouvoir humain qu'on peut faire ce genre de choses-là? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le Christ, à ma connaissance, et à ma confiance, et à ma certitude, il est le Tout-Puissant. Et si c'est lui qui vit en moi, et que je le supplie, et que je marche avec lui, que je m'efforce de faire sa volonté, il n'y a pas de limite, dans le fond, pour me permettre de passer à travers toutes sortes de circulations, de situations. Ça prendra le temps que ça prendra pour régler des choses ou pour passer à travers, mais je vais y arriver, non pas par ma force, mais par sa force. M. Meredith, c'est vraiment un exemple de foi et de courage extraordinaire, de foi et de courage du Christ. Un exemple d'ardeur déployée pour réussir dans ce qui est la plus grande entreprise de toute l'histoire humaine. Finir l'œuvre de Dieu et préparer un peuple qui lui appartienne pour bâtir la société de demain, qui est tout proche à être bâtie. Ça vient de qui? C'est la foi et le courage de qui? Ce n'est pas la foi et le courage de M. Meredith, c'est celle du Christ, comme dans notre cas à nous. Mais comment est-ce qu'il fait, M. Meredith, pour avoir cette foi-là? Comment est-ce qu'il fait pour avoir ce courage-là? Première chose, il le demande. Combien de fois on a des situations difficiles et on ne demande même pas? On essaie de faire nous-mêmes pour régler le problème. Là, c'est la foi sur nous-mêmes. On se fie à nous. Il faut développer dans notre vie de tout mettre entre les mains de Dieu, même les petites choses, et de lui demander son aide. Père, comment je dois réagir ici? Quelle réponse je dois donner? Comment je dois faire les choses? Plus je fais ça, plus je suis proche de Dieu, et plus Dieu me donne sa force. Alors, M. Meredith, comment il fait pour avoir ça? Il demande à Dieu. Comment il fait? Il prie Dieu. Je suis certain qu'il n'y a jamais une journée qui passe sans que M. Meredith prie Dieu. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il fait le matin, après les petites choses de base. C'est la première chose, priorité. Priorité. Première chose qu'il fait. Ensuite, les études. Et on doit étudier chaque jour, de se nourrir. La parole, elle est vivante. Si je la mets dans ma bouche, si je la mets dans mon cœur, dans mon esprit, elle agit. Elle est vivante. Absolument. Et il jeûne. Il jeûne, parce que le jeûne est un outil extrêmement puissant. Et c'est pour ça que M. Meredith nous rappelle de jeûner, pas juste le jour des expiations, de jeûner plus régulièrement, parce que ça nous approche de Dieu. Et là, on peut lui demander de nous donner la force d'aller plus loin, de mieux faire sa volonté. Alors, il demande, il prie, il jeûne et il met son cœur dans l'œuvre, comme nous, on doit faire. Il y a une idée qui m'est venue en préparant ce message-là, et je pense que ça donne une bonne perspective aussi. Plus Dieu est ma priorité dans ma vie, plus Dieu est ma priorité, plus Dieu devient ma réalité. Plus Dieu est ma priorité, plus Dieu devient ma réalité. Parce que ça couvre tous les aspects de ma vie. Et plus Dieu devient réel. Et plus je fais ça, plus il répond, plus je vois ses interventions. Et quand je lui demande quelque chose et que je n'ai pas la réponse que je souhaite ou que je n'ai pas la réponse immédiatement, c'est que je continue à mettre ma confiance en lui en attendant sa réponse. Parce que lui sait ce qui est le mieux dans ce que je lui demande. La chose la plus essentielle sur laquelle je dois insister chaque jour, c'est dire, Dieu, malgré toutes les circonstances que j'ai à vivre, donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté. Et tout est compris là-dedans. Donne-moi la force, donne-moi la vision, donne-moi la perspective de faire ta volonté, quelles que soient les circonstances. Et c'est la clé encore. Plus Dieu est ma priorité, plus il est ma réalité. À la fête des tabernacles, on est là, on y goûte, c'est bon. Vous savez ce qu'on fait symboliquement là? C'est qu'on explore le pays. Ah, ben oui, on explore le monde de demain. On a quitté nos problèmes, nos soucis, on vient ensemble, on est bien. Dieu nous bénit, il nous donne des joies, il nous donne de découvrir des choses. C'est un petit aperçu de ce que sera le monde de demain pour le reste des êtres humains. Alors, on est en mission à la fête des tabernacles. Et si vous voulez, on explore, on a le bonheur d'explorer ce que sera un peu le monde à venir. C'est pas parfait, mais c'est une petite exploration de ça. Allez à psaume 37, s'il vous plaît. Psaume chapitre 37. Comme Josué avait fait lorsqu'il est allé explorer la terre promise. Ils ne l'ont pas eu à ce moment-là parce que 10 des espions ont été très négatifs et Dieu, à partir de là, a fait en sorte qu'ils doivent passer par les 40 années dans le désert. Ça a retardé les choses énormément. Mais Josué est allé explorer le pays. Il a vu comment allait être bonne la terre promise physique à ce moment-là. Lui a fait un bon rapport. Mais nous, ce qu'on vit, c'est un petit peu ce que les gens vont vivre dans le monde à venir quand les choses vont être belles, simples, qu'elles vont être, ça sera harmonieux. Mais regardez la promesse de protection que Dieu fait à ceux qui marchent par la foi du Christ et qui vivent selon ses lois, qui lui demandent de faire sa volonté. C'est une promesse pour les jours difficiles à venir, à ses fidèles serviteurs. Je devrais dire à ses serviteurs qui utilisent la foi du Christ et qui en redemandent chaque jour. Psaume 37 et le verset 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il dit, encore là, il ne dit pas parfait, Mais de ceux qui essayent de marcher dans l'intégrité, il dit, il les connaît leurs jours. Toute leur journée, minute par minute, seconde par seconde, il voit vos réactions, il voit vos souffrances, vos inquiétudes, vos soucis. Tout ça, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Lui, c'est ça ce qu'il a en tête, de vous amener à la vie éternelle pour que votre héritage dure à jamais. Et regardez, verset 19, « Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. » Et on sait que le malheur approche. Le malheur approche sur l'ensemble de l'humanité. Mais il dit, « Mes fidèles serviteurs qui me demandent comme priorité de faire ma volonté, je vais les protéger et je vais les protéger du malheur qui vient. » Et regardez, il précise encore plus après. « Et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Et on sait que la famine vient et que ce sera terrible sur la face de la terre. Mais il va donner du pain et de l'eau, il va donner de la nourriture à sa petite église qu'il va amener au lieu de sécurité. C'est une promesse. Regardez le verset 39 du même chapitre 37 des psaumes. Il précise encore les choses. Le salut des justes vient de l'Éternel. Mais vous, c'est Dieu qui donne le salut, qui est la vie éternelle, à ceux qui s'efforcent de pratiquer la justice et qui développent le caractère de Dieu à travers toutes sortes de circonstances. Il dit, le salut, la vie éternelle qui sera donnée aux justes, vient de l'Éternel. Il est leur protecteur quand? Au temps de la détresse. L'Église sera amenée en un lieu de sécurité, un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant 3 ans et demi. C'est une promesse infaillible de Dieu. Nous, on a à faire sa volonté, à terminer l'œuvre et à laisser le reste entre ses mains. Comptez sur Dieu. Je reviens à ça, puis ça m'a fait réaliser ça moi-même. Il faut que j'apprenne à compter uniquement sur Dieu. Comptez de plus en plus sur Dieu et de moins en moins sur vous-même. Il faut faire ce qu'on a à faire. Dieu ne le fait pas à notre place. Dieu n'ouvre pas ma Bible le matin lorsque je me lève en disant « Lis ta Bible ». Il faut que je fasse la démarche. Et il faut que j'aille prier. Et il y a des jours où on n'a pas d'idée pour prier, où ça ne vient pas. Et parfois, je prends ma Bible, comme M. Armstrong faisait, et je vais prendre un psaume, et je vais lire le psaume à Dieu, et je vais lui dire ce que je comprends, et à partir de là, je vais étendre ce qui me vient, et je lui demande de m'aider, parce qu'il y a des journées où la prière est un travail. D'autres jours, je pourrais rester une heure et quart, une heure et demie. Il y a plein de choses qui viennent, puis parler d'un tel, puis merci pour telle chose, puis ce qui est arrivé dans l'Église ou tout ça. Vous êtes sûrement comme ça. Il y a des journées où on a plein de choses à dire, d'autres journées, moins. Comme sur le plan humain. À ce moment-là, ça devient ces jours-là comme un travail, si vous voulez. Mais on doit s'appliquer à faire les choses qu'il faut. Avec son aide à observer les lois, et plus je vais le faire, plus je vais demander à Dieu de faire sa volonté, plus je vais faire ma part, plus il va me bénir. Il le fait déjà avec vous. Il va le faire encore davantage. Et il va se manifester. Vous allez voir de plus en plus, et ça va devenir de grands encouragements, comme on le voit cette année, de façon spéciale, à la fête des Tabernacles, ici, à Shawinigan, et comme les nouvelles me sont données de d'autres sites à travers le monde. M. Ames a écrit ceci, en 2004. « Nous pouvons avoir confiance en Dieu. » Oh oui! Il nous donnera sa foi, son pouvoir, sa force. Ça résume. C'est une bonne capsule. On peut avoir confiance en Dieu. Il faut mettre notre confiance en lui. Et pour ça, on doit vivre selon ce qui est juste à ses yeux. Le juste vivra par la foi. Je dois mettre en pratique les choses que Dieu me montre. Vous savez, la dernière année de sa vie, M. Dibord appartient. Que la plupart d'entre nous, on a connu et qu'on a chéri. C'était comme un bon grand-papa. Moi, j'ai eu l'occasion de passer des heures et des heures avec lui, même de voyager avec lui. Il est venu chez nous, on a fait plein de choses. C'était tellement un homme attachant et un homme qui avait vraiment son cœur dans l'œuvre. Moi, je l'ai vu à un moment donné, je l'ai entendu dire, même si je fais un long voyage pour aller faire une conférence ou, et qu'il y a seulement une personne qui se présente, mon voyage vaut la peine, parce que c'est un enfant potentiel de Dieu. et c'est ma place d'aller faire le travail. Voyez-vous, c'est pas dans le nombre que les choses comptent, c'est dans la mission qu'on a à accomplir. C'est fantastique. Alors, monsieur appartient, lors de sa dernière année de vie, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai noté avec soin certaines choses qu'il a dit. Et je vous les donne. Il n'était pas dans des très bonnes conditions quand on sait comment il a terminé sa vie. Il avait plus de 94 ans, on ne sait pas trop son âge, mais c'est 94 ans minimum, probablement plus que ça. Fatigué, amoindri, presque aveugle, souffrant beaucoup de son état et souffrant beaucoup de ses limitations. Lui qui avait été habitué de faire tellement de choses. Alors, il souffrait beaucoup de ça. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai noté, quand je suis revenu, j'ai noté tout ça. Il dit, « La vie est une expérience joyeuse. » C'est lui qui parlait de ça dans l'état où il était. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre perspective que la douleur immédiate ou que sa situation. Il disait, « La vie est une expérience joyeuse, quelles que soient les épreuves que nous traversons. » Ça frappe quand vous voyez un homme dans cet état-là qui s'approche de la mort, vous dire la vie est une expérience joyeuse, quelles que soient les épreuves que nous devons traverser. Ça veut dire une chose, c'est comme dans le cas de M. Montgomery, voir au-delà de la situation temporaire présente, voir vers les choses permanentes. Et il ajoutait, si nous sommes patients et si nous sommes persévérants, nous voyons s'accomplir dans notre vie tout ce que Dieu promet. Si nous sommes patients, si nous sommes persévérants, nous voyons s'accomplir dans notre vie tout ce que Dieu promet. Et il finissait en disant, soyez joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez joyeux, courageux et restez proches de Dieu. Formidable. Vous savez, Abraham, le croyant, est père des vrais croyants, de ceux qui comptent sur la foi du Christ et qui la demandent et qui la chérissent, qui en vivent. Abraham sera là au retour du Christ. Abraham sera là durant le millénaire, le premier millénaire du règne du Christ. Il sera là durant le 100 ans qui va suivre, qui va donner une chance à tous les êtres humains qui n'ont jamais vécu. Il sera là au moment où la cité permanente, la nouvelle Jérusalem, va descendre du ciel pour venir sur la terre. Ce que Dieu lui avait donné de voir d'avance, la perspective. Il sera là lorsque la nouvelle Jérusalem descendra. Puis, Abraham sera là pour l'éternité, participant à la réalisation de tous les projets divins que Dieu nous révélera en temps et lieu. Et ses enfants dans la foi seront là aussi. Ceux qui ont gardé, chéri et utiliser la foi du Christ en eux. Celui qui donne la foi et qui la mène à la perfection, leur grand frère sera là pour les accueillir.